I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. C'est ce qu'on fait en général, on prend toute l'actu de la semaine, on en tire les éléments essentiels, importants à comprendre, on vous les résume, on vous les explique, on vous les commente. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent, comme on le fait de temps en temps. On a un épisode spécial sur un sujet bien spécifique. On va vous parler de tech et d'architecture paramétrique spécifiquement. Vous allez voir que c'est un sujet peut-être un petit peu étonnant, mais extrêmement intéressant. Je suis Patrick Béja, très heureux de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui, et j'ai le plaisir de recevoir Pascal Simoens. Est-ce que je prononce bien, Pascal? Je ne veux pas faire d'impair dès le lancement de l'émission. Bonjour à toi.
Bonjour Patrick, presque, c'est Simoens en fait.
Simoens. Damned, c'est pour ça, effectivement. Tu sais, moi, je connais le nom de famille, mais j'ai la prononciation à la française. Donc, première faute. Bon, je vais essayer de me limiter à ça. Pascal Simoens. Bonjour à toi. Avant même de te poser les questions importantes, est-ce que c'est quand même incroyable, je remarque, ça fait des mois qu'on parle et j'ai jamais pensé à te demander la prononciation de ton nom. Quelle honte. Bon, est-ce que tu peux te présenter du coup pour les auditeurs, pour qu'ils aient un petit peu de contexte, pour comprendre ce dont on va parler?
Sans nul doute. En fait, je suis urbaniste, architecte de formation de base, et je travaille maintenant à l'Université de Mons, qui est installée en Belgique. Pour la France, c'est situé à mi-chemin entre Valenciennes et Bruxelles. Et dans ce contexte-là, en fait, je suis enseignant-chercheur et je m'occupe d'ateliers d'architecture paramétrique, entre autres, et également je donne cours de Smart Cities auprès de mes étudiants en faculté d'architecture et en faculté polytechnique.
Alors, un mot que les gens vont comprendre, Smart Cities, on commence à penser à de la science-fiction, des voitures qui volent, ce genre de choses. On en est peut-être un petit peu loin dans la réalité, et dans la pratique, c'est peut-être un petit peu plus utile que les voitures qui volent. Merci d'être avec nous pour nous parler de ça. On a déjà fait un épisode sur le bâtiment, les travaux publics et les outils tech qui sont utilisés dans ces contextes. Il faudrait que je retrouve le numéro de l'épisode, mais c'était extrêmement intéressant. Toi, tu es vraiment spécialisé dans l'architecture paramétrique. Est-ce que tu peux nous dire, je pense qu'on peut imaginer architecture, ok, paramétrique, paramètres, chiffres, données, etc. C'est quoi l'architecture paramétrique ?
Si on veut faire simple, c'est continuer à faire de l'architecture de la même manière que tout le monde connaît l'architecture en ville, la maison dans laquelle on vit. Et c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est utiliser en fait les nouveaux outils, donc c'est à la fois des logiciels, mais aussi évidemment pour nourrir ces logiciels et ces algorithmes, c'est de récupérer en fait la kyrielle de données qu'on obtient aujourd'hui à peu près partout. Ça peut être des données de météo, ça peut être des données liées au trafic et donc au bruit lié à ce trafic, pour faire en sorte que les bâtiments qu'on construit, qu'on conçoit plutôt, parce que l'architecte est plutôt dans la conception plutôt que dans la construction, donc on est en amont, c'est de pouvoir améliorer en fait cette conception au travers de ces nouvelles données qui étaient avant plutôt intuitives. Prenons un boulevard parisien ou bordelais, on se disait il y a beaucoup de bruit, donc il va falloir protéger les gens de ce bruit-là quand on va construire le bâtiment. Mais aujourd'hui, en fait, on peut objectiver ces éléments-là. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est des architectures paramétriques. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la question, il y a des très grands architectes dans le monde, hein, type Zaha Hadid et autres, qui font des formes en forme de pétales de lotus ou des formes très, très organiques. Mais l'architecture paramétrique, c'est aussi plein d'autres choses. Et je parlais par exemple des données climatiques, mais aujourd'hui, reconstruire une tour de bureau ou même un ensemble de quartiers sans tenir compte en fait du vent, de la bonne orientation et autres, donc ça peut être des plus petits bâtiments aussi, nécessite, si on veut faire les choses convenablement, de travailler de manière paramétrique. Le dernier élément paramétrique, c'est la question de l'entropie, où en fait, à travers les outils de BIM aujourd'hui, donc Building Information Management, c'est de pouvoir lier en fait à chaque produit qui est dans le bâtiment des données, hein, vraiment une base de données, comme un tableur Excel si on simplifie l'approche, et qui permettra ensuite de calculer en fait le bilan carbone du bâtiment et d'autres éléments tels que cela. Donc en fait, aujourd'hui, l'architecture, c'est comme depuis des siècles une image, mais derrière cette image, en fait, on vient mettre énormément de données et on utilise ces données. Donc la question paramétrique, c'est utiliser les données à bon escient, soit pour des questions écologiques, je dirais même toujours pour des questions écologiques, du moins je l'espère, auprès de mes confrères, mais au-delà de ça, c'est aussi des questions de forme en fonction du contexte, du vent, de l'ensoleillement ou d'autres éléments tels que ceux-là. Et l'architecture paramétrique, contrairement à ce qu'on imagine qui sont souvent des formes organiques, c'est parfois aussi simplement un cube. Donc ça n'a pas d'esthétique en tant que tel, c'est un procédé, c'est une manière de travailler.
C'est marrant parce que tu évoques énormément, enfin on l'a vu en préparant l'émission, tu parles beaucoup de développement responsable et de construction responsable. C'est un sujet qu'on va évoquer dans l'émission. Mais une petite note, c'est le Rendez-vous Tech 256, donc multiple de 2, une puissance de 2, donc facile à retenir, qui était notre spécial Tech et BTP. On avait parlé un petit peu de Smart Cities et de Smart Home, mais c'était vraiment une approche beaucoup plus généraliste. Là, j'ai l'impression, en t'entendant parler, qu'on est presque... On parle de quantified self, quand on parle des données sur nous-mêmes. Là, j'ai l'impression que ça s'applique aux villes, donc c'est presque une quantified city. On comprend les choses et donc on peut agir en fonction de données objectives, comme tu le disais. Est-ce que le quantified city, c'est peut-être un moyen de décrire ce que tu fais ou j'exagère un peu?
Oui, c'est clairement aujourd'hui en fait ce qu'on utilise dans nos métiers d'aménageur de ville ou de construction de bâtiments ou conception de bâtiments, c'est la question de la donnée. Mais c'est la question de la donnée. Pour la donnée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a de grosses discussions sur le big data, où en gros, c'est très énergivore. Hein. On connaît les data centers. Alors, pour les auditeurs, il faut savoir que l'université où je travaille, où je me trouve actuellement, je suis situé à 5 km d'un des deux gros data centers de Google. Donc, on les côtoie et on discute beaucoup sur ces questions de données et autres. Il faut savoir que Google, d'ailleurs, pour la petite histoire, a une succursale dans le consortium holding Alphabet qui s'appelle Sidewalk Labs et qui, en fait de la Smart Cities. Ils ont d'ailleurs proposé des projets assez innovants à Toronto qui ont foiré. Pour la petite histoire aussi. Mais donc, oui, le quantify, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin de toutes ces données pour arriver à un résultat optimal. Et donc, c'est pour moi la chose la plus importante dans la formation, en tout cas des étudiants, c'est de pouvoir leur dire, avec quelques données, parfois, on obtient un très, 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 très bon résultat et il ne faut pas nécessairement aller chercher du big data continuellement qui est anthropique par définition, c'est-à-dire qui consomme de l'énergie, tout simplement.
C'est un des aspects qui était intéressant dans nos discussions. Tu es évidemment qu'il est nécessaire d'avoir des données pour faire de l'architecture paramétrique, c'est même le principe, mais vous êtes très focalisé dans votre champ d'activité sur le fait d'avoir les données dont on a besoin et de pas forcément aspirer toutes les données qui existent parce que ça crée du bruit, ça consomme de l'énergie. Donc c'est pas du big data, c'est du small data
du low data. En fait, il n'y a pas véritablement de terme approprié pour ça parce que la grande majorité des acteurs actuels sont plutôt dans « on va faire du big data et on va tout régler ». C'est le cas d'ailleurs dans la Smart Cities. Comme je te le disais au début, je donne cours de Smart Cities, donc je peux être considéré comme un historien de la Smart Cities, même si ça ne veut pas dire grand-chose, puisque ça existe depuis à peine une quarantaine d'années, mais, et plus particulièrement depuis les années 2000. Mais en fait, il y a une forme de solutionnisme avec la Smart Cities, où on a dit, on va mettre une tonne de données, on va régler vos problèmes de circulation avec des feux rouges connectés, des voitures connectées, des parkings connectés.
Et on va mettre des capteurs dans les trottoirs, des capteurs, des caméras partout, des machins. C'est
exactement. Ouais. Et en gros, ça n'a jamais marché. Il n'y a pas un exemple de ville qui a fonctionné de cette manière-là. Il y a la ville de Songdo, entre autres, en Corée, qui est vraiment le stéréotype de la nouvelle ville de 400 000 habitants quand même, hein, à la méthode asiatique. Et cette ville est superbe à tous les niveaux. Il y a des parcs, il y a des services et autres. Et c'est une ville hyper connectée. Donc, on gère son appartement comme on gère son bureau, comme on gère ses transports en commun avec des applications. Sauf que personne n'a envie de vivre dans cette ville-là. Donc, c'est la démonstration qu'en fait, le big data et les données connectées partout ne servent pas toujours à bon escient. Et à contrario, ben, constatant ces éléments-là, il y a quand même quelques chercheurs canadiens, américains, européens qui se sont dit, il y a peut-être autre chose. Et aujourd'hui, en fait, la Smart Cities, on la traite plutôt avec un focus humain. C'est de régler, en fait, d'abord des problèmes de la vie quotidienne et régler des problèmes de la vie quotidienne. Il ne faut pas nécessairement tout gérer avec des données. C'est d'ailleurs le problème qui s'est passé avec le quartier que Google a essayé de développer à Toronto, où à un certain moment, les gens ont dit « Oui, oui, mais vous avez toutes nos données. Moi, je veux être propriétaire de mes données. Mmh. » Et ça a calé à un certain moment sur la vie privée.
D'accord. Alors, il y a deux domaines distincts qu'on a évoqués dans nos discussions. Il y a d'une part les Smart Cities et d'autre part un niveau... Parce que ça, c'est un truc qui est qui se conçoit et qui se travaille sur le très long terme. Il y a aussi des bâtiments smart qui se conçoit sur le un petit peu plus court terme. Mais du coup... Cette question que tu à laquelle tu proposais de, enfin peut-être pas de répondre, mais d'expliquer aux auditeurs, qui est hyper intéressante. Dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut poser la deuxième, qui est c'est quoi un bâtiment smart ? Mais la première, qu'est-ce que c'est une smart city aujourd'hui ? C'est vrai que l'image qu'on a, c'est celle bah, peut-être de Google et des Sidewalk Labs quand on parle dans le rendez-vous tech, et c'est quelque chose qui n'a pas eu d'application concrète. Quels sont les fantasmes de la Smart City et lesquels de ces fantasmes s'appliquent concrètement aujourd'hui ou peut-être, allez, on va dire, s'appliqueront demain et qu'est-ce qui est un petit peu plus de la science-fiction où on se dit un jour ça marchera comme ça. Quel est ton travail au niveau d'une ville entière, ton travail d'urbaniste en fait?
Alors, la Smart City telle que rêvée par les Cisco, IBM et consorts, c'est une ville qui se gère à partir de son smartphone. Donc ça c'est pour le citoyen et c'est une ville qui se gère à partir d'une tour de contrôle pour les pouvoirs publics.
Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire qu'il se gère à partir de son smartphone concrètement pour quelqu'un qui y habite ?
C'est-à-dire que c'est déjà un peu ce qui se passe, hein, donc il y a déjà des choses qui sont bien smart, c'est de se poser la question où se trouve le vélo partagé dont on a besoin pour aller à un tel endroit, on le fait à partir de son smartphone, si c'est des véhicules partagés, parce que c'est probablement vers ça qu'on tend de plus en plus et de moins en moins des véhicules personnels, il faudra aussi des applications pour savoir où se trouve la voiture, et donc c'est toutes les aménités quotidiennes, mais... Le rêve absolu, pour certains en tout cas, c'est de savoir exactement ce qui se trouve dans le corner supermarché du coin et de savoir s'il y a encore du pain chez le boulanger, de savoir si le boucher a encore toute sa viande ou pour les végétariens, le légumier, et d'avoir en fait tous les éléments qui constituent notre vie au quotidien, connectés d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne faut pas mettre une puce dans le concombre, hein. Il faut simplement, il faut simplement trouver des solutions techniques et Amazon y arrive déjà plus ou moins bien avec ses supermarchés connectés. Hein. Mmh. Et donc, ça, c'est la smart city.
une puce dans le concombre, ça pourrait être une réplique d'Audiard. Hein. Je trouve ça assez délicieux. Ouais, donc c'est vrai que Amazon, par exemple, avec ses magasins, c'est comment Amazon Go, Amazon, je sais plus, Amazon ouais. Go, je crois. Bah, ils font tout ça par caméra. Donc c'est pas qu'ils ont une puce dans chaque produit, mais avec la reconnaissance visuelle des images par caméra, ils peuvent savoir, ils peuvent avoir en fait à peu près ces données-là. Ouais.
Et donc, par rapport à ce que tu dis, et quelque part, c'est une forme de dystopie. Enfin, je pense qu'il faut, même si on est un peu geek sur le bout des oreilles, on se dit, enfin, j'ai pas envie d'être contrôlé continuellement. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté par rapport à ce modèle de smart cities absolu, et qui n'est pas nécessairement apprécié par beaucoup de monde, à juste titre, je pense, c'est que pas mal de chercheurs se sont dit, mais non, on va pas travailler avec du top-down au niveau de la technologie, mais on va plutôt faire du bottom-up, c'est-à-dire voir un petit peu ce que les gens ont besoin. Et donc, la Smart Cities aujourd'hui, si on devait la caractériser convenablement, c'est de se dire, on va d'abord se poser la question, quels sont les réels besoins des citoyens? Et ensuite, on va voir si on va régler le problème de ces citoyens au travers de l'utilisation d'applications ou simplement l'entre-soi des personnes et de se rencontrer dans un local est amplement suffisant. Je vais te donner un exemple assez concret. Et qui est lié de nouveau à la question énergétique. Donc, il y a des villes pionnières à l'échelle européenne et Amsterdam en fait partie. Donc, le premier plan smart d'Amsterdam, c'est 2007. C'est déjà pas mal, ça fait presque 15 ans. Et dans ce plan smart, ils avaient décidé, ben, on va isoler l'ensemble des bâtiments, logements sociaux pour réduire en fait la consommation carbone de la ville et autres.
Quand tu dis isoler, tu veux dire au niveau chaleur et
Oui, tout à fait.
Oui,
donc,
c'est ça.
Faire en sorte que les bâtiments consomment moins d'énergie pour le chauffage et l'électricité. Et en fait, ça n'a pas été très efficace. Donc, d'une part, on a simulé le résultat de bilan carbone des opérations qui ont été proposées et réalisées. Et entre ce qui a été simulé et la réalité, on s'est rendu compte que on espérait, je vais donner un chiffre comme ça, consommer 50% moins d'énergie. Et en fait, on en est à 10 ou 15%. Et donc, ils se sont posé la question, ils se sont dit pourquoi. Et ils ont analysé que les comportements des habitants faisaient que, comme c'était bien isolé, ils ouvraient plus facilement la fenêtre parce qu'ils avaient trop chaud, parce qu'ils régulaient pas suffisamment bien leur thermostat, ou ils laissaient les lampes allumées dans la salle de bain alors qu'il fallait les éteindre, etc., etc., etc. Et dans ce contexte-là, il y a deux solutions. Soit on dit on va mettre des capteurs pour que quand il y a plus personne dans la salle de bain, ça va s'éteindre tout seul. Et il n'y a rien de plus énervant. Tout le monde a déjà essayé des immeubles de bureaux ou des couloirs en disant pourquoi c'est éteint alors que je suis dedans, parce que le capteur ne fonctionne pas. Et,
parce que tu es un peu immobile, peut-être que tu as mangé un truc qui te fait des effets sur l'estomac la veille. Et t'es un petit peu immobile aux toilettes, quoi. Ça arrive. Et effectivement, ça s'éteint, c'est insupportable. Tu te mets à agiter les mains comme un fou là, en essayant de comprendre où est le capteur. Bref. Petite
je constate que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes.
Possiblement moi, possiblement.
Et donc, là, c'est pas la bonne solution technique en la matière. Et donc, ils se sont vraiment posé pas mal de questions et ils ont réalisé en fait un serious game dans des quartiers de cités de logement social, des grandes bars comme on connaît aussi en France, mais qui existent un peu partout en Europe. Et ils se sont dit, on va demander aux enfants de travailler sur un serious game. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le modèle de Ingress, mais qui est un peu proche du Pokémon Go d'une autre manière, et qui a été lancé par Google, si je ne dis pas de bêtises, Ingress, et qui existe toujours d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que, à la fois, on va gagner des crédits en fonction des capteurs qui sont dans la maison, et souvent, en fait, ce sont des compteurs électriques connectés. Ça fait beaucoup de bruit en France, mais en l'occurrence ici, c'était connecté avec l'application qui permettait de dire si vous consommez moins, en fait, vous avez des crédits en plus. Et au-delà de ça, on va créer des happenings sur la place du quartier pour que les jeunes enfants qui sont les premiers addicts à ce genre d'application puissent se réunir, échanger leurs crédits et autres. Mais surtout, l'application permettait aussi de dire « écoute, tu as réussi à gagner 10% de consommation d'énergie. Si tu fais cette chose-là ou cette chose-là avec tes parents, ça sera encore mieux. Et donc, c'est devenu vraiment un jeu. Et les simulations qui avaient été prévues initialement avec ce Serious Gaming a permis de les atteindre plus ou moins à quelques pourcents près. Et donc, ça démontre que dans les comportements... Oui. Et donc, ça démontre que par les comportements, on change les choses. Donc, c'est les individus qui sont en première ligne. Mais grâce à la technologie et au Serious Gaming, avec un jeu qu'on retrouve dans le smartphone, sur ta tablette ou peu importe, eh bien, on a aidé aux modifications de comportement avec les enfants qui sont devenus des influenceurs par rapport à leurs parents, en disant « Papa, maman, il faut arrêter de laisser la lumière allumée alors qu'on n'en a pas besoin ».
Mais on ne va pas se mettre à imposer des ingress-like à tous les gens dont on veut réduire la consommation quand même, ce n'est pas le but,
bien sûr. Et donc, cette solution ingress était appliquée parce qu'en fait, il y a eu des études en amont qui ont montré qu'en fait, il y avait un terreau qui était propice à ce concept-là. Et cette solution fonctionnait très bien aux Pays-Bas et elle a été appliquée également à Grenoble et elle n'a pas fonctionné. Donc, ça démontre en fait, contrairement à ce qu'on imagine, que n'y a pas de solutionnisme général numérique pour toutes les villes dans le monde, mais que chaque ville a ses spécificités et que le numérique est simplement un numérique au sens large, est un outil avec des tonnes de possibilités. Alors, dans certaines villes, c'est peut-être plein de capteurs. Dans d'autres villes, c'est un serious game. Dans une troisième ville, c'est une plateforme socio-numérique dédiée aux habitants pour qu'ils proposent des différentes solutions pour qu'on améliore l'usage de la ville. Et donc, c'est ce qui s'est passé en gros dans la théorie des smart cities, c'est qu'on est passé de ce solutionnisme technologique à quelque part une logique, comme je disais tout à l'heure, bottom-up, où en gros, on se pose d'abord la question, on a besoin de quoi, et puis on verra comment avec des outils numériques.
Donc, on arrête de se dire, OK, on a tout compris, on va tout faire. Enfin, je caricature un petit peu, mais on se dit, les capteurs ou alors l'isolation, on va tout faire comme on l'a développé, comme on l'a pensé dans notre labo, à la limite. Et ça va arranger le problème. Et on se dit, OK, calmons-nous une seconde. On va essayer de voir comment les gens fonctionnent et comment on va pouvoir s'équiper de ces conclusions pour arriver à nos objectifs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets des petits... On va revenir sur des sujets un peu plus sérieux, mais des petits bonbons pour les fans de tech de la manière dont sont pensées les smart cities, du coup, pour aujourd'hui et pour demain. Est-ce qu'il y a des outils intéressants, technologiques, qui sont utilisés, auxquels on ne pense pas forcément ? Ou alors, est-ce que c'est des choses... beaucoup plus terre-à-terre, comme l'isolation des logements, les connexions entre, je ne sais pas, savoir quand les feux rouges s'allument et s'il y a des voitures devant, ce genre de choses toutes bêtes, quoi.
Une grande question aujourd'hui, et je ne donnerai peut-être pas de solution parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un en ait déjà trouvé une de toute façon aujourd'hui, c'est en fait le transfert de démocratie, parce qu'aujourd'hui, en gros, sur les réseaux sociaux, tout le monde refait le monde. Mais concrètement, parfois, il y a beaucoup d'énergie sur ces réseaux sociaux qu'il faudrait mieux catalyser pour améliorer le quotidien des habitants dans la ville.
Et c'est sûr que si on pouvait utiliser l'énergie dépensée dans les réseaux sociaux quand tout le monde pense avoir raison pour alimenter un petit peu le rechargement des voitures et des téléphones, on n'aurait plus de problème d'énergie. Alors que franchement, vous le savez bien tous, tout le monde pense avoir raison, on sait bien que personne n'a raison, à part moi. Demandez-moi, je sais. Moi, je sais, il suffit de me poser la question, ça règle tous les problèmes. Bref, pardon Pascal, je digresse.
Sans nul doute. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même une vraie question pour de nombreuses villes, et que ce soit des villes comme Paris ou comme des toutes petites villes en province, c'est de se poser la question où, en gros, les maires ou les adjoints aux maires, ou en tout cas les responsables qui gèrent la cité, en fait, se font vilipender dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ville. Mais d'un autre côté, alors il y a des solutions qui existent comme Fix My Street ou d'autres applications où, en gros, quand on voit qu'il y a une poubelle qui a été éventrée ou bien une bordure qui est mal enchâssée sur le trottoir, on peut faire une photo et l'envoyer au service technique de la ville. Mais plus globalement, en fait, la question, c'est que le numérique aujourd'hui offre des tonnes de possibilités. Je parlais des capteurs et je peux vous assurer qu'il y a parfois, grâce aux données fournies par les capteurs, une forme de manière d'objectiver la situation. Mais ensuite, c'est comment transférer en fait une compte.
Mais tu peux nous donner un ou deux exemples justement de la manière dont ces capteurs sont utilisés, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait dans ma ville des capteurs qui savent ce qu'on fait ou ce qui se passe. Tu peux nous donner un exemple de ça?
Je vais te donner deux exemples qui sont assez concrets parce qu'on travaille au sein de l'université là-dessus depuis un certain temps. Donc, on utilise les caméras de contrôle police, hein, donc qui se trouve dans toutes les villes maintenant et qui regarde le nombre de personnes s'il y a des malfrats et des problèmes. Et on utilise en fait les mêmes données, mais anonymisées bien évidemment, pour calculer le nombre de personnes qui circulent dans une rue. Alors à quoi ça sert ? Ça sert, alors ça va excessivement loin, hein, parce qu'on peut mesurer en fait les flux dans une rue commerçante, jour par jour, heure par heure, si les gens sont plutôt dans la rue à gauche ou dans la rue à droite, est-ce qu'ils vont plutôt s'éloignent de la caméra ou se rapprochent, donc le sens dans lequel ils marchent dans la rue, et qui permet, alors pour ceux qui travaillent dans le commerce en ville, ils connaissent bien ça, c'est qu'il y a toujours des rives chaudes et des rives froides. Hein, si on prend les Champs-Élysées, il y a une rive chaude et une rive froide. Hein, quand on remonte vers l'Arc de Triomphe, vers l'Arc de Triomphe sur la droite, avec donc les Tuileries derrière.
Là où il y a le soleil, oui, complètement.
Froide, voilà. Et donc, on dit chaud et froid par le soleil, mais parfois, il y a bien d'autres éléments, simplement bien par sûr. La forme de la rue et autres. Et donc, on sait mesurer ces éléments-là. Donc, on a des outils d'aide à la décision pour que les pouvoirs publics puissent redynamiser la rue, le quartier et d'autres éléments tels que ceux-là, ou des entreprises qui veulent s'installer dans la rue. Aujourd'hui, c'est fortement demandé par les surfaces commerciales en disant on veut voir vraiment comment fonctionnent les flux pour savoir si on peut investir en fin de compte cette cellule commerciale. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a évidemment la compétition avec le commerce en ligne et autres et que donc c'est une prise de risque de plus en plus importante. Donc on réduit le risque par ces données qui sont traitées et qui sont des cartes de flux qui apparaissent, la tête des gens, on s'en fout un peu. Ce qui nous importe, c'est de voir en fait les flux au quotidien en fonction des types de commerces qui peuvent être installés. Dans le même ordre d'idée, on a placé des capteurs de pollution dans différentes rues scolaires, à la fois pour les collèges, les lycées, mais également pour le premier âge. Et dans ce contexte-là, en fait, là, c'est une approche qui est un petit peu différente. Ces capteurs vont pouvoir mesurer, en fin de compte, le taux de pollution sur une population qui, en fait, habite très proche des écoles, mais décide quand même d'aller déposer ses enfants en voiture. Et donc, on se rend compte, malgré la volonté...
Tu veux dire, excuse-moi, c'est pas qu'il y a certaines personnes qui sont dans le quartier qui vont faire ça, tu veux dire d'une manière générale, on va savoir s'il y a des gens, parce qu'ils habitent généralement près de ces écoles-là, et ils vont quand même aller déposer leurs enfants en voiture. D'une manière générale, c'est pas que tu vas savoir qui des parents habite à côté et va déposer quand même ses enfants en voiture.
Si, on a...
Ah oui, d'accord.
Avec le RGPD, on a les adresses des parents qui déposent leurs enfants, enfin, là où ils habitent et là où ils déposent leurs enfants. Alors après, on doit anonymiser, mais le RGPD européen permet aux scientifiques de pouvoir désanonymiser, de pseudo-anonymiser après. C'est des termes barbares, mais...
Mais donc, tu sais... Et excuse-moi, je suis surpris par ce que tu me dis là, mais tu sais, dans les écoles où vous avez fait ces tests ou ces études, tu sais qui... des parents habitent à côté et est un mauvais, entre guillemets, mauvais élève et accompagne quand même ses enfants en voiture, malgré
alors,
le fait qu'ils habitent à côté
qui. Donc, on fait ce qu'on appelle, alors c'est un jargon technique, une matrice origine-destination. Donc, la destination, c'est l'école, l'origine, c'est là où les parents habitent. Mmh. Et on peut mesurer, en fait, par école, on fait ce qu'on appelle des cartes de chaleur, c'est-à-dire que...
Donc, tu sais quelle proportion des parents...
Voilà. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte pour une ville 200 000 habitants qu'à peu près toutes les écoles, la plupart des parents, en tout cas pour les premiers âges et le collège, les parents en fait habitaient à 3 ou 4 km grand maximum de l'école. Sachant qu'en Belgique, on est dans une situation un peu différente. En France, les parents ont le droit de mettre leur enfant où ils veulent dans n'importe quelle école. C'est leur choix privé. Donc, on pourrait avoir des parents qui amènent des enfants qui sont à 25 km. Mais c'est relativement rare en fin de compte. Et malgré la bonne volonté, donc constatant ces éléments-là, tout le monde se dit, mais pourquoi les parents ne permettent pas aux enfants d'aller à vélo? C'est aussi simple que cela. Mais il y a plein de biais. Les gens ont peur parce que les enfants vont se faire renverser. Il y a des gens méchants sur la route. Enfin, il y a plein de choses qui font peur alors que ce n'est pas nécessairement objectivement vrai et avéré. Et donc, on s'est posé la question avec les directions d'école, comment on pourrait conscientiser en fait les parents qu'ils portent préjudice à leurs enfants s'ils les amènent en voiture. Alors, une des raisons, c'est quand on habite quand on amène ses enfants en centre-ville, généralement les rues sont assez étroites et on a un défilé de véhicules le matin qui viennent déposer sa gare, laissent les voitures tourner, etc. Et donc ça pollue. Et donc les résultats sont pas encore définitifs, mais on a mis des capteurs pour pouvoir mesurer en fin de compte le niveau de pollution lorsqu'il y a pas d'école lorsqu'on est dans une situation normale, et le niveau de pollution quand on dépose les enfants ou qu'on vient les rechercher. Pour essayer justement, dans la même logique que ce que je viens d'expliquer sur les Pays-Bas et Amsterdam, c'est de passer par les enfants pour leur dire « mais vous savez, c'est pas très gai de venir parce que vous avez plein de pollution quand vous venez à l'école le matin parce que tout le monde vient déposer les copains et les copines en voiture. » Et donc, ça serait bien de dire aux parents que vous pourriez aller à vélo ensemble, parce qu'en plus, ce qui est assez fou, c'est comme on a ces matrices origine-destination, qu'on les a cartographiées, c'est qu'on se rend compte que parfois, il y a 10 enfants et 10 familles qui vivent dans le même quartier et qui pourraient aller ensemble à la même école au même moment. Donc, on peut même organiser ces choses-là de manière assez sympathique, avec un accompagnant ou autre, et faire du vélo, c'est bon pour la santé, pour tout le monde. Et donc, cette étude est en cours, mais on va essayer de travailler sur la logique d'influence justement des enfants auprès des parents pour changer un peu de mentalité et se dire tout compte fait, aller à vélo, c'est pas plus mal. Et je pense que
d'accord.
Les gosses.
Et tu penses que vous pourrez les convaincre? Ça me paraît être compliqué de convaincre les gens sur ce point.
Convaincre les parents, ça va pas être simple, et c'est pour cette raison qu'il vaut peut-être mieux essayer de convaincre les enfants avec un accompagnement des écoles. Mais ce qui est intéressant dans le processus numérique, c'est qu'en fin de compte, si on n'avait pas ces capteurs de pollution, si on n'avait pas ces machines qui permettent de faire de la cartographie en quasiment en temps réel des gens qui peuvent déplacer leurs enfants, c'est des grosses matrices. Il faut donc des grosses machines. Hein. On n'était pas capable de faire ça dans les années 60, hein, pour dire du siècle passé, hein, pour les plus vieux. Et donc aujourd'hui, ça se fait assez facilement. Et donc n'importe quelle école dans un village et avec un spécialiste qui peut les aider peut arriver à transformer en fin de compte les mentalités en objectivant la situation. C'est ça qui est le plus important. C'est que les données, si elles sont bien traitées, on permet d'objectiver une situation.
Est-ce qu'on parle un petit peu des bâtiments smart ou est-ce qu'on continue sur les smart cities de manière plus générale?
On peut parler des bâtiments smart, mais il n'y a pas de mais. C'est en gros, si tu attends de ma part de préciser qu'on va mettre des capteurs partout pour tout mesurer, les capteurs sont utiles, c'est sans nul doute, mais aujourd'hui, en fin de compte, un vrai bâtiment smart, c'est un bâtiment qui a été pensé, en fin de compte, avec des données, de sa conception à son entretien après réception des travaux. Et là, on peut commencer à parler véritablement d'un bâtiment smart. Donc, aujourd'hui, le cœur d'un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment, en fait, qui a des données dès sa conception, génère des données pendant qu'on est en train de l'utiliser et permet une optimisation. Autrement dit.
Donc il y a des capteurs quand même. C'est pas que moi j'y tiens aux capteurs, mais il y en a.
Non, non. Inévitablement, aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, donc si on prend les grands postes de construction d'un bâtiment, avant la construction, donc les briques, les fondations, les façades, ça représentait à peu près 55% du prix du bâtiment. Et puis le reste, après, c'est ce qu'on appelle les techniques spéciales, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, l'eau, le courant électrique, tous ces éléments-là représentaient à peu près 35%. Le solde, c'était les aménagements, si on mettait un papier peint d'une couleur, une moquette, etc., etc. Aujourd'hui, les techniques spéciales dans un bâtiment, c'est-à-dire tout ce qui fait la régulation du bâtiment, ventilation, et par exemple avec la COVID-19, la question de la ventilation des bâtiments est essentielle, mais c'est aussi les économies d'énergie, c'est-à-dire de mettre des capteurs pour qu'on ne chauffe pas un bâtiment quand il n'y a personne dedans, des capteurs pour la lumière, hein, on parlait des sanitaires ou des salles de bain tout à l'heure, mais dans les immeubles de bureaux, les immeubles même de musées ou autres, tout ça est absolument nécessaire. Et on se rend compte qu'en fait, on peut concevoir aussi bien un bâtiment avec très peu de consommation d'énergie au départ, puisque de plus en plus, et c'est le cas en France entre autres, mais aussi en Belgique, en fait, on doit calculer le bilan carbone du bâtiment dès le départ. Hein, c'est la RT 2020. En France et en Belgique, il y a d'autres normes aussi, puisque c'est le pays où je travaille. Et c'est vrai dans tous les pays européens, d'ailleurs. Et aujourd'hui, en fin de compte, on doit, dans la conception, concevoir un bâtiment qui consomme le moins d'énergie, conception, réalisation. Mais même si on a été très vertueux dans cette approche, qui nécessite du travail de données, hein, puisque ça veut dire que quand on met une brique, derrière la brique qui fait une dimension, qui fait un poids et que le maçon va venir placer sur son bâtiment, derrière ça, en fait, il y a un bilan carbone. Et donc ça, ce sont des données qu'on intègre dans des logiciels qui vont nous permettre de pouvoir mesurer le bilan carbone et parfois faire de la compensation qui peut être très, très complexe parfois. Mais même si on est très vertueux dans la conception, en fait, la durée de vie du bâtiment fait que son bilan carbone peut exploser s'il n'est pas régulé. Et c'est là où les capteurs, en fin de compte, sont utilisés pour pouvoir améliorer véritablement la durée de vie et, en fin de compte, l'entropie du bâtiment jusqu'à son recyclage final, 60 ou 80 ans plus tard.
Ça se concrétise comment, ça ? C'est-à-dire que on va mettre des capteurs pour déterminer l'utilisation de l'électricité et les températures et ce genre de choses, ou c'est quel type de capteurs qu'on va mettre dans les bâtiments ?
Alors, certains auditeurs ont sans nul doute entendu parler de la domotique qui a démarré dans les années 1980, même un petit peu plus tôt, mais on a commencé à avoir les premières maisons domotiques dans les années 80 et ça a été une catastrophe. Parce qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont figés. Qui fait que si on a décidé de déplacer le living ou le salon par rapport à la salle à manger, les capteurs sont plus au bon endroit, il faut démonter dans les murs, enfin c'est une usine à gaz. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, en fin de compte, les capteurs, tout le monde connaît les petits capteurs de CO ou de température intérieure qu'on achète. Ouais. Chez certaines marques comme Netatmo et autres, aujourd'hui, en gros, la logique de capteur, c'est un peu cela. Quand on travaille à beaucoup plus grande échelle, la seule chose qui est utile et nécessaire à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on essaye d'intégrer de plus en plus. Donc, par exemple, le capteur de présence de chaleur se trouve en fait dans les éclairages. Et si le capteur tombe en panne, on remplace en fait le capteur dans l'éclairage et on n'a pas un capteur qui est séparé de l'éclairage, qui est séparé de l'autre capteur, qui fait qu'on a en fait que des fils un peu partout dans les faux plafonds.
Quand tu dis dans l'éclairage, ça veut dire là où est placée la douille de l'ampoule? Alors, ou dans l'ampoule elle-même?
Oui, tout à fait. Donc souvent, on a maintenant des rails de LED dans lesquels, en fait, à la place d'une LED, on va mettre un capteur. Et quand les capteurs sont autonomes, aujourd'hui, il faut s'imaginer qu'un capteur a une durée de vie de 10 ans.
Mais du coup,
et on peut mettre un capteur même sur un très vieux bâtiment, ce n'est pas un problème.
Mais on ne parle pas de l'intérieur des appartements, là. C'est-à-dire que les habitants de l'appartement vont devoir s'occuper des capteurs qui sont dans leur salle à manger ou je suis surpris parce que j'ai jamais entendu. J'ai habité que dans des très vieux bâtiments, donc c'est peut-être moi qui n'y ai pas été confronté. Mais c'est-à-dire que les habitants vont changer les capteurs ou vont devoir acheter des ampoules spécifiques avec capteurs pour s'éclairer ?
Alors. Les systèmes dont je te parlais étaient plutôt des systèmes pour des immeubles collectifs. Hein. Donc, par exemple, c'est des capteurs qu'on met dans les couloirs pour accéder aux appartements ou dans les parkings ou des locaux poubelles ou des choses telles que celles-là. Donc là où il y a la gestion collective. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on part du principe que justement chaque individu a sa propre liberté par rapport à cela. Et donc, à part des systèmes de thermostat intelligents qui vont mesurer la présence des gens et autres, et bon, qui sont super efficaces, hein, les capteurs type Nest, enfin les thermostats type Nest et autres faits par Google aussi sont excessivement performants. Ça, c'est plutôt un choix individuel. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au stade où on dit, mais vous achetez un appartement dans un immeuble. Et votre système, votre appartement est dans une logique domotique en fin de compte, c'est-à-dire vous pouvez tout gérer. Et c'est ce que j'expliquais entre autres avec la ville de Songdo en Corée du Sud. En fait, on constate que ça ne marche pas. Les gens n'en ont que faire d'une kyrielle d'informations. Donc, outre les systèmes qui, eux, fonctionnent bien et qui sont totalement automatisés, donc on peut être d'accord ou pas, mais c'est les compteurs intelligents, c'est les thermostats qu'on place dans les appartements et parfois même dans les appartements anciens, mais qui ont une capacité de learning suffisant pour pouvoir mieux gérer en fait les programmes que on laisse tomber parce qu'on a oublié de couper le chauffage quand on partait le week-end. Les capteurs du thermostat seront suffisamment performants pour se dire il n'y a pas de mouvement devant mon capteur et donc c'est qu'ils ne sont pas là après 3 heures, je coupe. Ça devient excessivement facile à faire pour tout un chacun et d'upgrader en fin de compte quelque chose qui est un élément de base, qui est l'ensemble du bâtiment dans lequel on vit. Alors il y a deux catégories, les nouveaux bâtiments. Alors les nouveaux bâtiments sont de plus en plus connectés pour 26 000 raisons. C'est entre autres la gestion des parkings qui sont de plus en plus collectés. Dans la ville pour essayer d'avoir le moins de place inutile dans les immeubles à appartements, mais il y a plein d'autres choses, c'est la gestion des poubelles connectées et des éléments tels que cela. Et puis ensuite, il y a les plus vieux immeubles, et ces plus vieux immeubles, contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui le niveau technologique est tel et l'autonomie des capteurs qu'on peut véritablement améliorer un bâtiment ancien, pas comme un bâtiment neuf, mais on peut vraiment déjà aller très très loin en la matière. Et l'arrivée de la 5G va probablement encore révolutionner un petit peu plus la situation.
Bah tiens, justement, ça nous offre une transition dont je suis sûr que tu l'avais toi-même préparée. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la 5G, effectivement, et de son utilisation concrète. Parce que c'est un sujet qui est presque un peu controversé, parce qu'on se demande parfois si ça va vraiment être utile, et on nous répond souvent pour les utilisations professionnelles et d'infrastructures, oui. Mais avant même de partir sur cette question-là, j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus un élément que tu as évoqué à plusieurs reprises. C'est celui donc du développement durable et des questions d'énergie. Ça semble être un des axes, un des angles essentiels de ton travail. Tout ça, c'est imaginé et inventé pour consommer moins, au final, c'est ça le but. Alors le confort et la facilitation de la vie des gens entrent en ligne de compte, mais j'ai l'impression que peut-être en raison de l'urgence du changement climatique, j'ai l'impression que 90% de ta préoccupation, c'est ça au final, c'est le cas ?
Oui, tout à fait. Le numérique n'est que un outil pour réduire en fin de compte l'entropie générale des villes.
On aurait peut-être dû commencer par ça, c'est le but ultime de ton boulot en fait.
Oui, Oui, tout à fait. En gros, quand on parle d'entropie, le concept est assez simple, hein. Quand on met un atome tout seul, il est stable. Si on met deux atomes l'un à côté de l'autre, ils deviennent instables pour redevenir stables après. C'est deux molécules d'oxygène, on les met ensemble, ça commence à chauffer, et puis après, ça devient de l'oxygène à part entière. Et je fais des raccourcis a fortiori, on ne m'en voudra pas.
On comprend.
En fait, au niveau de la gestion des données, on est exactement dans le même processus. Donc, on parle d'entropie avec les logiques de big data où il y a des tonnes de données qui disparaissent, on ne sait pas ce qu'on en fait, et c'est ce qu'on appelle du bruit régulièrement. Et les serveurs de Google et de Amazon Web Services sont, à mon avis, remplis de données qu'on ne sait pas ce qu'on en fait en la matière. Et certains connaissent aussi quelque part l'explosion des données où on ne sait pas véritablement ce qui va se passer dans quelques années. Alors, ça peut paraître antinomique de dire on va utiliser le numérique pour optimiser en fin de compte la consommation d'énergie et l'organisation de la ville, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fin de compte, une ville par elle-même, par sa complexité, est entropique. C'est-à-dire que la même personne qui vit en ville consomme plus d'énergie qu'une personne qui est au milieu de la campagne. Alors ça peut paraître une évidence pour certains, et pourtant, généralement, tous les urbanistes et architectes diront aux auditeurs, il faut aller vivre en ville parce que il faut arrêter d'étendre les villes vers l'extérieur, ça consomme de l'énergie par les transports, etc., etc. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, moi, mon travail, c'est d'essayer de réduire l'entropie urbaine, mais au travers des outils numériques. Et c'est le concept d'optimalisation. C'est-à-dire que l'avantage du numérique, c'est comme j'expliquais avec les enfants qui vont à l'école et qui habitent à 3 ou 4 kilomètres, c'est que quand on a en fait des bases de données qui ne doivent pas être extravagantes au niveau de leur dimension, on n'a pas besoin de savoir tous les gens qui se baladent ou vont amener leurs enfants à l'échelle de la Belgique ou de l'Europe pour répondre à cette question, mais on doit pouvoir, avec ces outils, véritablement dire ben, pour ce quartier-là, on peut mieux amener les enfants à vélo. Pour ce quartier-là, ça sera les transports en commun, en bus. Pour ce quartier-là, ben, tout compte fait, ils iront à pied parce qu'ils sont de l'autre côté d'un parc. Et ça, on ne sait pas le faire sans le traitement de la donnée et l'usage de la donnée. Et donc, même si on peut se dire, si on fait de la smart city, en fin de compte, on va fournir des données en quantité non négligeable, que ces données, c'est des data centers, que les data centers, c'est de la consommation d'énergie, oui. Mais l'optimalisation grâce à ces données permet en fin de compte d'avoir un bilan carbone à la fin qui est positif. Et c'est un peu cette démarche-là qu'on essaye de développer au quotidien avec mes collègues chercheurs et d'autres personnes.
C'est compliqué de convaincre les gens qu'on n'a pas besoin de toutes les données qu'on peut avoir. J'imagine que dans la tech, ils sont très friands de ce genre de choses. Mais est-ce que pour vous, c'est acté ? Ça y est, dans ta profession et dans ton domaine, on se dit « Ok, c'est bon, arrêtons les conneries, c'est pas nécessaire. » Ou est-ce que tu fais partie d'une frange rebelle de ce domaine d'activité qui se dit ce genre de choses ?
Alors, dans la tech, c'est très difficile de faire passer le message. Par contre, pour les gens qui travaillent dans tout ce qui est développement durable, c'est plus facile, mais eux sont plutôt anti-tech, presque. Et donc, ils vont dire, mais non, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir y arriver. Donc,
ils vont carrément dire, non, capteur, pas besoin, donner, ça va des rétros. Et donc, ils vont à l'autre extrême, presque.
Exactement. Et donc, ils arriveront peut-être à un bilan carbone de 1, alors qu'on essaye de leur expliquer que le bilan carbone avec la tech, on pourrait arriver à 0,5. Mmh. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est très difficile. En fait, les deux mondes ne se côtoient pas particulièrement, même si, pour le coup, parfois, on a du branding de chez Google qui a signalé depuis 2020 maintenant qu'en fait, leurs données sont neutrales carbone. Parce qu'ils compensent d'une manière ou d'une autre, et ils essayent véritablement, je pense, d'avoir cette stratégie-là, mais Mais dans l'absolu, la donnée est consommatrice d'énergie, ça c'est une évidence. Surtout qu'on a beaucoup de données qui ne servent à rien, faut le dire.
Est-ce que, je vais du coup te poser une question qui est là encore une petite digression avant qu'on parle de 5G pour conclure. Les géants de la tech en particulier annoncent tous de la neutralité carbone aux horizons 2030, 2040, 2050 parfois. Mais quand on parle des GAFAM, ils semblent avoir reçu le message et ensuite, parce que c'est dans leur intérêt commercial ou parce qu'ils sont vraiment préoccupés par la chose, à la limite, c'est une autre question, mais ils semblent dire, soit par des utilisations d'énergie verte, soit par, je ne sais pas moi, on va construire nos centres de données dans des endroits très froids ou ce genre de choses, on va arriver à une neutralité carbone, voire certains disent carrément à zéro émission de carbone, donc sans compensation. Est-ce que c'est un truc dont tu penses que c'est crédible? Mettons de côté un instant la question de « on a beaucoup de données qui ne servent à rien », est-ce que tu penses que c'est crédible ou est-ce que c'est des promesses qui semblent difficiles à réaliser à ton avis?
Je pense sincèrement que ce sont des promesses qu'ils arrivent à répondre aujourd'hui, au temps T, mais vu l'évolution exponentielle du nombre de données dans le monde, ils travaillent essentiellement aujourd'hui par compensation carbone. Donc ils plantent des arbres, ils font des activités X ou Y qui leur permettent de pouvoir compenser. Et il faut bien reconnaître, et donc comme je disais, on n'est pas très très loin d'où je suis, d'un des gros data centers de Google, hein, et ils ont véritablement une attention particulière dans la conception même de leur data center pour essayer de réduire leur consommation d'énergie au maximum.
Je signale entre parenthèses que si certains se disent « ah mais oui, c'est juste pour faire bien », c'est aussi parce que plus ils consomment d'énergie, plus ça leur coûte. Les centres de données coûtent excessivement cher à faire tourner. Et donc, c'est complètement dans leur intérêt commercial, dans leur intérêt financier de faire des centres de données qui consomment le moins possible, même si après, ils mettent aussi dessus un habillage durable, qu'il soit sincère ou non. Donc, je le précise pour que les gens comprennent bien.
Oui, je te rejoins pleinement et tout le monde ressent l'augmentation du coût de l'énergie ces derniers temps avec le gaz et le pétrole en règle générale. Eux consomment essentiellement de l'électricité, mais il y a un lien de causalité évident. Et donc, en toute sincérité, je ne remets pas en doute, moi, leurs intentions, à la fois pour des raisons commerciales, mais également parce que je pense qu'ils ont une vraie conscience que s'ils doivent maîtriser ou gérer, en fin de compte, toutes les données qui sont exponentielles, la consommation d'énergie serait également exponentielle. Et à un certain moment, c'est même la logique de l'offre et la demande. C'est que alors, on ne va même pas parler du minage, qui est encore tout autre chose.
Oui, non, mais, ça c'est encore à part, oui.
Mais on est vraiment ici dans une situation où, en gros, c'est dans leur intérêt économique que de consommer le moins possible avec le plus de données possible.
Ça, c'est clair. D'accord. Bon, c'était un petit à côté, mais du coup, si on conclut un petit peu dans la même veine avec la question de la 5G, je crois que les questions qui se sont posées sur la 5G dans le public général, on va dire, sont peut-être pas tout à fait celles qui préoccupent les gens qui savent, hein, les gens intelligents qui écoutent le rendez-vous tech, qui font partie de l'audience. C'est-à-dire que on va pas forcément se demander si la 5G va envoyer des ondes qui vont être néfastes ou ce genre de choses. Par contre, une question qu'on se pose sincèrement, c'est alors, qui dit nouveaux équipements dit renouvellement des équipements. À la fois, on va devoir jeter les anciens, pour une grande partie, j'imagine. Et puis en plus, ça veut dire consommation accrue de ces équipements, pas seulement les appareils, les téléphones qu'on achète, on va dire, de toute façon, même si on pourrait ralentir le rythme, on va dire, on renouvelle les équipements régulièrement, mais pour toute l'infrastructure, on va également devoir renouveler tous les équipements. Et du coup, ça amène une question qui est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, cette 5G, par rapport à la 4G qui marche très bien aujourd'hui? Et donc, est-ce que ça vaut la peine, si on met de côté peut-être les plus véhéments des critiques, mais est-ce que objectivement ça vaut la peine de changer ces équipements parce que la 5G semble ne pas servir à grand-chose? Donc, je te pose la question un petit peu en vrac, et j'imagine qu'elle se résume à quoi sert la 5G, finalement? Si elle sert à quelque chose, peut-être que ça vaut la peine, mais si elle ne sert pas à grand-chose, on fait peut-être beaucoup on dépense beaucoup d'énergie et de matériaux pour pas grand-chose.
Alors, je vais te répondre de deux manières, donc... Une qui va dans le sens « ça ne sert à rien » et une autre qui dit « ça sert à quelque chose ». Alors, pour donner un autre exemple, notre université a placé dans tous ses locaux des capteurs de CO et de pollution en règle générale. C'est un projet européen, mais qui tombait à point par rapport à la problématique Covid et de pouvoir mesurer en fait la qualité de l'air dans les locaux. Tous ces capteurs... qui sont du même ordre que les capteurs dont j'ai beaucoup parlé juste avant, fonctionnent avec un système qu'on appelle LoRa, qui est un système qui a très très basse consommation d'énergie, et il faut juste que les capteurs soient calibrés avec deux antennes sur l'ensemble d'un territoire de 100 000 habitants, et ces antennes, en fin de compte, reçoivent les informations des capteurs dans des vieux bâtiments, puisque les universités, en règle générale, ont des vieux bâtiments. Et ça ne pose absolument aucun problème. Alors, le fantasme de dire « mais on va mettre des capteurs partout, ils seront tous connectés avec de la 5G et autres », bah, de nouveau, c'est une solution de simplicité, en se disant bah, « comme ça, c'est facile à régler, on a pas de problème ». Qui plus est, au niveau en tout cas des bâtiments, le gros problème de la 5G, c'est que ça ne passe pas les murs. Donc, en fait, il faut mettre des antennes dans les bâtiments eux-mêmes pour pouvoir continuer à avoir du réseau. Après, d'un autre côté, et à l'échelle de la ville, la 5G va probablement aider, par exemple, dans la gestion des transports en commun, aider aussi, quand on conduit, généralement, on perd énormément de temps à se garer. On n'est pas le plus efficace, même si on a les GPS maintenant, pour pouvoir trouver le meilleur chemin. Avec la 5G, on va véritablement déterritorialiser en fin de compte la simulation de la ville, et on va pouvoir en fait véritablement optimiser tous les trajets. Mais quand je dis les trajets, c'est en véhicule individuel, c'est aussi les transports en commun qui pourront, parce que les objets sont connectés entre eux, et pour le coup, quand on est à l'extérieur, ça sera plutôt de la 5G avec une quantité de données non négligeable, véritablement de réduire en fin de compte le bilan carbone global des transports par la simple et unique raison qu'on pourra modéliser la ville en temps réel grâce à cette 5G. Et donc, il y a à boire et à manger.
Mais pour ça, il faut... Excuse-moi, pour ça, il faut des puces 5G dans chaque voiture, dans chaque véhicule, ou comment ça se passe?
Ce ne sont pas des antennes 5G, mais il faut des véhicules qui sont pucés en 5G. Oui,
oui, c'est ce que je veux dire.
Donc
oui.
En fait, les voitures sont de toute façon déjà hyper connectées aujourd'hui, hein. En gros, si on regarde dans le marché européen, une voiture, c'est minimum aujourd'hui entre 80 et 120 capteurs. C'est vraiment le minimum. Les voitures un peu plus premium et autres, on peut monter à 200 sans aucun problème. C'est la pression des pneus, c'est les caméras qui regardent ce qui se passe devant soi, qui arrêtent la voiture quand il y a un piéton qui passe. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Et tous ces éléments-là sont reconcentrés avec un vrai ordinateur, hein, puisque maintenant Nvidia et autres font des puces spécifiques pour les voitures. Et ensuite, elles sont connectées en 5G et on voit toutes ces informations brutes. Il pleut, il y a du brouillard, il y a beaucoup de trafic. Tous ces éléments-là peuvent être mis dans une simulation globale de la ville. Mais quel est l'objectif ? C'est de faire en sorte qu'en fin de compte, les véhicules consomment moins. Alors, qu'ils soient au pétrole, essence, diesel ou au gaz naturel ou encore à l'électricité, on sait quelle est la problématique de l'électricité avec la recharge des véhicules. Autant faire en sorte que ces véhicules consomment le moins quand ils sont en ville d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est là où on joue sur l'entropie, en fin de compte, globale de la ville.
J'ai du coup une question que je pense beaucoup de gens vont se poser. Est-ce que c'est pas possible à faire avec la 4G, ça, finalement? Quel est l'avantage de la 5G?
Ah, L'avantage de la 5G, c'est sa bande passante qui permet de fournir beaucoup plus d'informations sur la même bande passante. Donc aujourd'hui, si on continue à utiliser la 4G comme elle est, il sera très très difficile de venir insérer en fin de compte toutes ces données fournies par soit quelques bâtiments parce que on n'a pas utilisé des systèmes type LoRa ou Zigbee, mais on travaille avec de la 5G, plus tous les véhicules, plus les vélos, plus les métros, plus les bus, plus les bateaux, plus voilà.
Tu veux dire qu'on commence déjà à arriver au pas tout à fait à la limite des possibilités de la 4G, mais on n'en est pas si loin si on continue sur cette voie, sur cette progression.
Sans nul doute, mais ce qui est certain, à mon sens en tout cas, c'est que la 5G n'est pas faite pour regarder YouTube plus facilement.
Pour les usages des gens normaux, ça ne va rien changer en final. Au final, la 5G, c'est ce que tu dis ?
À mon sens, ça ne changera pas grand-chose. Oui, quand on va se connecter avec son smartphone en pleine ville pour regarder un film sur YouTube, ça ira un tout petit peu plus vite, mais... c'est un peu comme la latence sur les jeux vidéo, quoi. Bon, il faut être un pro pour voir la différence. Sinon, on n'y fait pas particulièrement attention. La 5G n'est absolument pas faite pour les usages quotidiens. La 4G fonctionne très bien. C'est véritablement pour tout ce qui est connexion de la ville. Et la seule chose, moi, que je tiens comme discours, c'est que cette 5G sera absolument nécessaire pour faire en sorte qu'on atteigne en 2050 la neutralité carbone que l'Europe veut et que tous les pays doivent essayer d'atteindre, ou sinon, permets-moi l'expression, on est quand même dans la merde à l'échelle mondiale. Et donc, on a besoin de cette 5G pour véritablement optimiser, mais il faut faire une bonne sélection. C'est-à-dire que, malheureusement, j'ai très très peur que les grands opérateurs comme Huawei, Cisco, IBM et autres diront on va vous mettre des trucs 5G partout et ça va bien fonctionner, alors qu'il y a plein d'autres technologies qui n'ont pas besoin de la 5G.
Mais du coup, tu vas assez loin quand même. Tu veux dire que si on veut réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, la 5G est indispensable. C'est pas juste que ça va être utile, c'est que pour toi, c'est indispensable.
À mon sens, oui. La question de l'optimalisation passera par la simulation des usages de la ville au sens large, pour les urbanistes, les architectes, pour également les data scientists et autres, tous ceux qui gèrent la ville en tant que telle. Et c'est tellement complexe qu'on a besoin de données pour être le plus performant possible. Et la tâche qui nous attend de réduire et de faire de la neutralité carbone tout en essayant de garder les mêmes services, puisque c'est quand même ça aussi, nécessite véritablement derrière en fait des machines de calcul. Alors, j'ai parlé du low data, mais parfois il faut du big data aussi. Il ne faut pas être manichéen dans toutes ces choses-là. Et on ne pourra le faire que par de la simulation et ensuite de l'exploitation optimale pour consommer en fait très très peu d'énergie tout en gardant les mêmes services. Mais les mêmes services, c'est simplement de se déplacer avec des transports en commun, par exemple, ou à pied parce que c'est plus facile avec une trottinette qui sera connectée et j'en passe. Mais où les trottinettes seront véritablement un service à part entière. Pour le moment, un peu, c'est l'âge de pierre dans tous ces modes de déplacement qui sont très sympathiques, mais où elle ne va pas nécessairement être au bon endroit au bon moment. Tous ces éléments de connectique vont permettre véritablement d'optimiser en fabriquant moins de trottinettes pour avoir le même service. Donc, on réduit le bilan carbone de la trottinette en tant que telle, mais aussi où, en gros, on se dira « c'est tellement facile d'utiliser la trottinette connectée » que je ne vais pas prendre ma voiture ou prendre simplement un transport en commun, qui fait que les transports en commun seront mieux optimisés, qu'on va mettre moins de wagons dans le métro et que où on construira moins de lignes qui vont de nouveau permettre de moins construire et donc moins dépenser d'énergie en tant que tel. C'est systémique, ouais. Comme on dit dans notre jargon.
Et donc, il faudrait des puces 5G partout pour que tout puisse être tracé facilement. Peut-être pas partout, mais dans tous ces éléments dont tu parles, ça serait nécessaire. Peut-être une dernière chose. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de la manière dont toutes ces techniques pourront optimiser un élément du quotidien des auditeurs qui nous écoutent peut-être dans 5, 10, 15 ans. Tu parlais, par exemple, des voitures et du temps qu'on passe à chercher une place, qui est une proportion énorme du temps qu'on passe en voiture. Certains en seront peut-être surpris. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, sur ce point ou sur un autre, si tu le souhaites, comment est-ce que ça va nous aider ?
Mais la voiture est le truc le plus absurde qui a été créé par l'homme, puisque en gros, une voiture est construite pour rouler à peu près 10% du temps de sa vie. Ça, c'est une chose. Et dans ces 10%, on a à peu près, quand on se balade en ville, à peu près 20% du temps. Alors, évidemment, je parle des grandes villes, hein, des grandes agglomérations. On passe à peu près 15 à 20% du temps à essayer de trouver une place de parking. Donc, c'est... Au niveau de son efficacité, on a déjà vu mieux en tant que tel. L'avantage d'une logique connectée, c'est de pouvoir faire en sorte que la voiture autonome, et pour le coup, le véhicule autonome est efficace au niveau énergétique, sauf qu'il a besoin de la 5G. Là, pour le coup, c'est un exemple concret. Le véhicule autonome sans 5G n'existe pas. Et le véhicule autonome...
Sur le véhicule autonome, la 5G ne va pas être juste pour une question de bande passante, mais la question de la latence aussi joue, et le temps de réponse presque instantané, là, devient important. D'accord.
Tout à fait. Et d'avoir l'information, donc quand je parlais de simulation de la ville en tant que telle, c'est de se dire, bon, ben, je vais d'un point A à un point B, je ne me préoccupe plus d'arriver et me dire, ah, mais juste, les places là, au départ, c'était libre, mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est la voiture qui gérera les éléments parce que ça sera géré en temps réel avec peu de latence, avec une interconnexion à très haut débit d'échange entre les véhicules et autres, qui fait que l'avantage de la 5G aussi, c'est la dématérialisation du calcul. C'est-à-dire que le calcul ne se fait plus à l'échelle de la voiture, mais se fait à l'échelle d'un serveur qui, lui, va récolter toutes les données. Et comme il n'y a pas de latence, en fin de compte, il peut proposer une solution instantanément. Et donc là, on va vraiment gagner, optimiser, encore une fois, j'aime bien ce terme-là, mais optimiser en fin de compte le trafic qui fait que on partira d'un point A à un point B et on aura évité les bouchons parce qu'il y aura moins de voitures de toute façon, à mon avis, mais dans les années qui viennent en tout cas. Mais au-delà de ça, on arrivera directement à la place de parking, alors qu'il sera peut-être dans un immeuble, qu'il sera peut-être en voirie, peu importe. Et on n'aura plus à se préoccuper de tourner dans un quartier pendant 10 minutes pour essayer de trouver une place et en fin de compte de se garer à 800 mètres de l'endroit où on avait prévu de se garer au départ. C'est arrivé à tout le monde. Et Elon Musk, pour le coup, je t'interromps, mais Elon Musk avait proposé d'ailleurs il y a un an ou deux, dans cette problématique où en fin de compte ces voitures ne roulaient pas souvent, et pour le coup, eux, avec leurs voitures qui sont connectées, ont également les statistiques des véhicules et avaient proposé, avec les véhicules autonomes en Californie, de pouvoir utiliser les voitures qui étaient garées dans les parkings de bureaux pour qu'elles puissent en fait servir de taxi le reste de la journée et puis revenir le soir pour aller vous rechercher et retourner à la maison. Ça n'a pas beaucoup marché parce que les gens restent propriétaires de leur véhicule et donc ils n'ont pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans leur propre voiture. Donc il y a aussi des aspects psychologiques. Mais on voit bien qu'à la Silicon Valley, on réfléchit à toutes ces questions-là et que la voiture devenant un ordinateur à part entière hyper connecté offre des opportunités auxquelles on ne pense pas aujourd'hui.
C'est marrant parce qu'il y a deux choses qui me frappent dans tout ce que tu dis. D'une part, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au bon vouloir de chacun et au changement des comportements, parfois un petit peu drastiques. Sur la question des voitures autonomes partagées, on peut se dire « Ah, mais est-ce que les gens voudront ne pas avoir leur propre voiture et monter dans une voiture dans laquelle quelqu'un d'autre a été ?» Ça devient du transport en commun en quelque sorte, même s'il est plus ou moins individualisé. Il y a des questions d'attitude et de comportement à changer là-dedans. Mais j'aime bien, tu as déjà plus ou moins répondu à la chose avec la question des serious games et de l'incitation des enfants qui vont changer le comportement des parents. Donc, il y a déjà un petit début de réponse là-dedans. Et puis, il y a aussi, bon, peut-être qu'il y aura une question de responsabilité des gens qui seront des générations auxquelles ils comprennent l'importance de ces questions. Mais il y a aussi une autre chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a vraiment pas, et c'est ce que je commence à vraiment apprendre humblement dans les questions liées au changement climatique, il n'y a pas une solution. n'y a pas un truc où on va se dire, ah ben, telle catégorie de personnes ou d'industries va faire ça et tout ira bien. Ou telle, et encore moins dans le domaine des consommateurs finaux, c'est des choses où on va avoir, ah ben là, il y aura 5%, 10% d'amélioration, là, il y aura un petit peu plus, là, un petit peu moins. Et j'ai l'impression que c'est une règle générale sur cette question. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un responsable. Il y a une myriade de choses qu'il faut faire en même temps pour que ça marche. Et l'architecture paramétrique pourrait aider à tout ça, j'ai l'impression.
Oui, oui. Et pour compléter ce que tu viens de dire, c'est qu'en gros, justement, cette architecture paramétrique... Alors, on parle beaucoup des emplois qui vont disparaître avec le numérique et autres, mais ben les métiers créatifs, en fin de compte, ont d'autant plus de valeur parce qu'ils sont, je dirais, valorisés par le fait que ben, on a de plus en plus de données qui permettent d'être d'autant plus performants. J'aime pas le terme performant, mais je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre pour être explicite. On a la capacité de faire une meilleure architecture grâce aux données. Qu'elle soit pour répondre à des enjeux climatiques, de qualité de lumière dans les appartements ou dans les bureaux, sans pour autant utiliser l'éclairage qui n'est pas naturel pour le coup. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail. Nous, on travaille avec des maquettes en 3D, mais qui sont numériques. Donc, on peut déplacer les murs, on peut augmenter les hauteurs de plafond. Enfin, tout ça se fait instantanément aujourd'hui avec des machines et demain d'autant plus. On parlait de la 5G, mais là pour le coup il y a vraiment un avantage par rapport à cette logique de latence, c'est qu'aujourd'hui en fait ces outils sont excessivement demandent beaucoup de puissance en fin de compte, donc on doit continuer à travailler avec des grosses machines, avec des grosses cartes graphiques, et on est dans un process où demain avec la 5G, comme tout sera calculé par des serveurs qui seront mis à un autre endroit sur une plateforme, eh bien avec une simple tablette iPad ou Samsung ou Galaxy, on pourra faire exactement la même chose que ce qu'on fait au bureau. Et donc, on pourra travailler sur le chantier pour optimiser aussi, mais concrètement avec les ouvriers sur le terrain. Et on parlera même pas de l'impression 3D des bâtiments qui reste aujourd'hui plus un proof of concept qu'autre chose.
D'accord. Écoute, merci beaucoup pour tout ton éclairage sur tous ces sujets absolument passionnants. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton domaine d'activité et ce que tu fais spécifiquement, est-ce que tu pourrais nous donner quelques liens, peut-être un compte Twitter sur lequel on peut te retrouver ? Je t'écoute.
Alors, j'ai en effet un compte Twitter qui est p_sims, tout simplement, et j'ai surtout un blog sur lequel je publie à peu près 2 articles sur les sujets dont on vient de discuter et parfois un peu plus large, et qui s'appelle Numérique Landscape, donc numérique avec un C et landscape comme paysage en anglais, .org. Et vous pouvez vous y abonner, c'est avec plaisir.
Super. Merci beaucoup, Pascal. Un très bon moment avec toi. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous connaissez tout ça. NotPatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu aussi. Et bien sûr, le lien vers le Patreon si vous souhaitez soutenir l'émission. Vous connaissez tout ça. Donc, je vais vous laisser partir. Vous souhaiter une excellente semaine et vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci à vous tous, merci encore Pascal et à la prochaine. Ciao, ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.